Réplique la question du sacré avec Sonia Mabrouk et Sylvain Tesson. Dans son dernier livre, Blanc, Sylvain Tesson écrit « En 2019, les hommes avaient continué à s'entretuer passionnément. On avait découvert l'iPhone 11. Le progrès avait fait des progrès. Par exemple, la flèche de Notre-Dame avait brûlé. Que signifiait-elle dressée au-dessus du siècle 21? Il était logique qu'elle se retirât. L'homme moderne a autre chose à faire que de tourner son regard vers le ciel. » Ni Sylvain Tesson, ni Sonia Mabrouk, qui publie « Reconquérir le sacré », ne veulent laisser le dernier mot à cet aplatissement, à ce désenchantement du monde. Chacun, à sa manière, il résiste. Je suis impressionné, je suis admiratif, et en même temps, je m'interroge, et donc, je vous pose la question à tous deux. Quelle est votre recette? Comment faites-vous? Et plus généralement, comment faire? Sonia Mabrouk.
Bonjour à vous. Écoutez, je crois et j'espère qu'il n'y a pas de recette, fort heureusement. Il n'y a pas de technique dans ce domaine-là. On pourrait dire peut-être qu'il peut y avoir un art, celui d'être, et cela parlera à Sylvain Tesson, d'être à l'affût. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Vous venez de dire tourner son regard vers le ciel. Il n'y a pas de recette, mais il y a quand même une disponibilité, une aptitude à avoir, qui est celle de croire, me semble-t-il, en les signes. Moi, je crois que les gens qui vivent dans des cathédrales de raison, même ces gens-là, même ces personnes-là, ne sont pas à l'abri de ce qui peut se passer dans le ciel, peu importe d'ailleurs ce qui habite pour eux le ciel, Dieu ou autre chose. Et à vrai dire, il y a une forme de bonheur à croire en l'existence de ces signes. Vous venez également de citer la flèche de Notre-Dame. Moi, j'y ai vu aussi un signe. Peu importe si certains ont ricané, ont ringardisé une telle attitude. Et on dit qu'on peut parfois surinterpréter les signes. Je suis assez heureuse de les surinterpréter, malgré les effets, les conséquences et ce qu'on peut en dire. Je pense que voir des symboles, voir ce qui peut habiter le ciel, c'est un peu contribuer, très modestement, il est vrai, au chatoiement du monde, c'est croire en des choses finalement assez simples mais qui parlent à tout le monde, c'est croire en la poésie, c'est croire en l'amour, c'est croire en les couleurs, et c'est pour ça que je suis à l'affût, je dirais, de ce qui tombe de la poche de Dieu, ou de ce qui habite le ciel. Voyez-vous, si quelque chose tombe de la main ou de la poche de Dieu, moi je le ramasse. C'est pas du pragmatisme, je trouve au contraire, c'est ça être à l'affût, c'est ramasser cette poussière ou ces traces de sacré et se dire, voyez-vous, il y a cette phrase magnifique, je l'ai notée pour la citer comme il faut, c'est celle de Paul Valéry, c'est la lettre sur les mythes, il dit « Les anciens hommes, les hommes antiques, mettaient leur philosophie à peupler l'univers aussi ardemment que nos mimes, plus tard la nôtre, à le vider de toute vie ». Je trouve qu'il est beaucoup plus courageux aujourd'hui d'essayer de combler ce vide que de dire qu'il n'y a rien. Et cet aplatissement que vous décrivez, moi je le vois comme une forme d'écrasement. On a écrasé le sacré, un petit peu comme si c'était, voyez-vous, Gargantua dans Rabelais, obèse, fatigué. Il s'assoit justement sur les cloches de Notre-Dame et en s'asseyant dessus de tout son poids, de toute sa vie, son obésité, il empêche les cloches de sonner. Et ben c'est ce qui est en train de se passer. On s'est assis sur un Occident fatigué et usé et on n'entend plus les cloches du sacré.
Sylvain Tesson.
Merci Alain Finkielkraut de nous permettre d'essayer de ne pas uniquement nous aplatir et de consacrer cette heure à parler de ce sujet du sacré qui semble bien inutile, oui, dans le ciel du siècle 21, qui semble même une notion arrangée au grenier des antiquités et des vieilles lunes. Car qu'est-ce que c'est que l'efficacité du sacré, voulez-vous me dire, dans un monde qui est soumis à l'utilité des choses, franchement? Le sacré, combien de points de croissance? Combien de divisions? Quelle est la force du sacré? Quel est son usage? Quelle est sa valeur économique? pas grand-chose. Or, précisément, vous nous demandez quelle est la recette. Alors, bien entendu, je suis d'accord avec Sonia Mabrouk qu'il ne s'agit pas là d'essayer de trouver les trucs et astuces qui nous permettent de retrouver notre part verticale. Mais enfin, il y a quand même des chemins qu'on peut suivre, des options qu'on peut choisir, des liens qu'on peut renouer d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je vais essayer de vous exposer la manière dont je tente de me désaplatir. D'abord, je crois que ce qui nous pousse à essayer de réaccueillir le sacré dans nos vies, c'est quand on refuse notre propre réduction à notre dimension purement historique, purement biologique ou purement économique. Nous ne voulons pas, enfin certains d'entre nous ne veulent pas être uniquement des êtres d'histoire, ni des êtres de biologie, un sac de tripes avec un cortex, ni des êtres économiques. Alors à ce moment-là, quand on refuse la réduction à cette triple définition, on en choisit une autre, qui est qu'est-ce qui peut nous arracher à nous-mêmes, qu'est-ce qui peut aller contre notre intérêt immédiat, et qu'est-ce qui peut faire en sorte que parfois nous poursuivions des aspirations qui ne nous sont ni utiles, ni toujours bénéfiques. Alors, moi je vais vous donner ma réponse. J'ai trouvé un axe qui gouverne ma vie, qui la dirige, et qui est la tentative de m'enfouir, de me dissimuler, de disparaître dans la nature par les voies de l'effort. Ad augusta per angusta, quoi. Par des voies difficiles, par des voies qui m'abîment physiquement. Et j'y trouve là une sorte de prière active et physique. Et je conclue en disant juste que j'ai le malheur de ne croire à rien. Hélas, j'ai perdu la foi, j'ai été éduqué tout à fait catholiquement dans des écoles, des frères des écoles chrétiennes qui avaient une pédagogie très bonne. C'était véritablement des ringards, hein, puisqu'ils nous apprenaient à lire, à compter, à écrire, avant de nous apprendre les nouveautés des grandes mutations sociétales. Alors une fois que j'ai appris à lire, à écrire, à compter, grâce aux frères des écoles chrétiennes, malheureusement la lumière s'est éteinte, et je n'ai plus eu Dieu comme recours, mais c'est la conclusion de ma conclusion, mais Dieu merci, je n'ai rien déconstruit. J'ai gardé ma profonde allégeance pour ce que j'ai reçu, c'est-à-dire une considération du monde, où je voyais le Christ comme un personnage historique, ça c'est mon côté Renan extraordinaire. Je me méfie un peu du tripatouillage politique de la parole évangélique, ça c'est le christianisme, et je m'inscrivais profondément dans le grand espace culturel et civilisationnel de la chrétienté, avec le Christ, loin du christianisme et profondément dans la chrétienté.
Alors justement, la question que je voudrais poser à partir de là à Sonia Mabrouk, le sacré, quel sens qu'on donne à ce mot, peut-il survivre à l'éclipse du religieux ? Sonia Mabrouk.
Je voudrais reprendre un mot qui a été utilisé par Sylvain Tesson, celui d'allégeance. S'il n'y a pas de technique pour ramasser un petit peu la poussière ou retrouver les traces du sacré, il y a l'aptitude d'être sensible à une forme de dissimulation, en fait de dépouillement de soi, que vous vous retrouvez à travers les chemins noirs, qui sont des chemins cachés, qui permettent un petit peu une voie vers la rétractation. Et moi, je pense que se retrouver avec soi, c'est aussi un voyage. C'est parfois plus difficile que d'escalader une montagne. Il faut le vouloir. Il faut vouloir arriver jusqu'au sommet de soi-même. Moi, je l'ai ressenti, pour vous donner peut-être un exemple un peu charnel et physique, enfant. J'habite toujours en Tunisie, en face d'un monument que j'ai découvert petite, à l'âge de 7 ans. Et ce monument, il se trouve être une cathédrale. Vous allez me dire, il aurait été peut-être plus logique, je ne sais pas si c'est le mot, de se retrouver en Tunisie, sur cette terre d'islam, face à une mosquée. Non, il se trouve que j'habitais, et j'habite toujours face à une cathédrale, qui est la cathédrale Saint-Louis de Carthage.
Vous habitez la Tunisie, mais vous habitez aussi Paris, Sonia Mabrouk.
Oui, ça ce sont les délices du en même temps, si je peux me permettre. C'est un voyage qui n'est pas très lointain, mais je m'y rends souvent. pour retrouver justement ce monument que j'ai tout de suite appelé mon monument, cathédrale Saint-Louis de Carthage, qui a été bâtie entre 1884 et 1890, qui est une cathédrale de style byzantino-mauresque, qui n'a rien d'extraordinaire. Je dirais qu'elle est superbement dépourvue de charme, mais c'est déjà lui trouver quelque chose. Et j'ai tout de suite eu, en regardant ce monument, sans tout de suite sentir qu'il y avait un caractère religieux, je n'avais que 7 ans, et je n'étais pas sensibilisée à cette culture, à cette éducation-là, par rapport à cette religion, j'ai tout de suite senti une sorte de cousinage mystique et affectif avec cette cathédrale. Et j'ai senti comme si, alors vous allez me dire c'est une impression singulière, comme si les pierres de cet édifice représentaient véritablement les chapitres de ma vie. Comme si toutes les fissures de ce monument, c'était les lignes de ma vie. Et à un moment, je me suis dit, mais il faut absolument que j'aille visiter quand même ce monument, cette cathédrale. Et quand j'ai poussé la porte, tout simplement, alors cette cathédrale a été transformée, c'est devenu un lieu qui accueille des concerts. Et ben j'ai touché du doigt quelque chose de très particulier, c'est peut-être ça l'expérience du sacré. Il y a une véritable rupture, une césure. C'est-à-dire que je suis passée d'un état où j'étais dans un monde frénétique, le bruit, au silence, l'abondance, la frugalité. Et voyez ce moment où j'ai pas eu besoin de voyager si loin pour le ressentir. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement, un moment d'ébranlement, une oscillation entre deux états. Et je pense que c'est quand même ça l'expérience du sacré. C'est quand vous touchez du doigt à ce mouvement de balancier-là, qui est assez unique, qui est assez singulier, il faut pas aller le chercher. C'est pour ça qu'il n'y a pas de technique, j'étais pas dans un moment de sophistication. Mais j'ai prêté l'oreille, j'ai été à l'affût, non pas d'un message venant du ciel, mais peut-être d'un message intérieur.
Non pas message venant du ciel, mais à la fin de votre livre « Conquérir le sacré » Sonia Mabrouk, vous parlez de la mort de votre mère et vous dites à quel point cette mort vous a affecté. Mais vous ajoutez que vous croyez en une vie après la mort parce que vous pouvez vous résoudre à l'absurdité d'une existence qui finirait par le néant. Donc, vous liez quand même, non seulement votre expérience du sacré se fait dans des lieux de culte, mais en même temps, il y a chez vous une recherche de l'au-delà, voire une croyance en l'au-delà. Et c'est peut-être ainsi que vous pouvez faire l'expérience de ce que vous appelez le sacré, Sonia Mabrouk.
C'est un sujet très délicat. Cela me rappelle la manière avec laquelle Saint-Simon décrivait la duchesse de Bourgogne. Il écrivait qu'elle marche sur la pointe des fleurs. C'est un sujet tellement sensible et je pense qu'il faut écrire avec la pointe du feutre comme la pointe des fleurs. L'expérience du sacré, je l'ai vécue dans ma chair et c'est une expérience à la fois intime et universelle. C'est pour ça que je l'ai voulu en parler avec un deuil qui paraît insurmontable, qui peut être naturel dans l'ordre des choses, de perdre son parent, de perdre sa mère. Et ce moment a été plus qu'un moment d'ébranlement. Ça a été un moment véritablement où j'ai compris ce que c'était. Et là, c'est plus une expression, ou j'allais dire une culture qui vient d'Orient. J'ai compris ce que c'était la culture de l'âme. La culture de l'âme en Orient s'est perçue comme étant l'agriculture de l'âme. C'est-à-dire cela s'entretient, ça s'arrose, ça grandit, comme une plante, et c'est un très grand poète musulman, Mohamed Iqbal, qui évoque cela. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte d'atrophie en Occident par rapport à un Orient, et on évoquera ensuite évidemment les dérives éventuelles et le côté tout à fait dangereux que peut avoir le sacré. Mais je regrette qu'il n'y ait plus, si vous voulez, cette poésie des choses, cette aptitude à se rendre compte que la culture de l'âme existe, que si on l'entretient pas, eh bien on va oublier finalement le nœud qui noue tout. C'est ce que dit Saint-Exupéry, c'est le cérémonial, ce sont les rites, c'est les rituels. Et si j'ai parlé de ce deuil, qui est quelque chose de très intime, c'est pour montrer combien les rites funéraires qui nous constituent restent un élément essentiel et disparaissent un peu en Occident, ou sont détricotés.
Oui, alors Sylvain Tesson, de votre côté, vous ne parlez pas, vous n'utilisez pas le terme de sacré, mais il y a chez vous une exigence qui se traduit notamment dans votre livre blanc. Vous racontez cette traversée des Alpes à ski que vous avez fait avec deux amis et vous dites qu'il s'agit par là d'effacer ce qui salit, de ne conserver ni rancune ni dépit, de rester blanc comme neige. Et vous dites aussi, autre part dans le livre, on pouvait se guérir de l'ennui, oublier toute peine et laver l'amertume en s'enfonçant dans la blancheur. La neige était un acide indolore, il décapait l'âme. Donc le blanc, c'est une expérience particulière qu'on pourrait qualifier d'expérience purificatrice. C'est ainsi qu'on peut évoquer le sacré, Sylvain Tesson.
Oui, à condition d'user de l'idée de la purification, d'abord pour soi-même et comme un exercice purement spirituel.
Bien sûr.
Il y a dans l'effort du skieur alpiniste une psalmodie très difficile. C'est un effort très athlétique qui consiste à monter vers le sommet et ensuite à enlever les peaux de phoque de ses skis pour redescendre. Et un effort qui permet de conduire l'être vers une annulation générale de toute chose. D'abord du temps, parce que les heures se dissolvent, et surtout de l'espace, parce que soudain, tout se ressemble. La blancheur, l'éclat, le cristal, le caractère extrêmement aveuglant du ciel, le manteau neigeux sur les montagnes, annule le paysage. Et à ce moment-là, l'avancée, très épuisante, semble une sorte de flottaison dans un rêve. C'est ça que j'allais chercher, moi. C'est-à-dire, c'est l'anti-distraction. C'est l'effort physique qui est le plus éloigné du divertissement pascalien. Rien ne vous divertit. Vous êtes obligé, à ce moment-là, de recourir, de concentrer, de cotiser toutes vos forces pour avancer. Mmh. En cela, c'est une purification.
C'est en cela. Mais alors, d'un autre côté, c'est ça que j'aime, il y a une petite inconséquence merveilleuse entre les livres, une contradiction. Et donc, un approfondissement nécessaire. Parce que vous dites, c'était un danger de l'alpinisme, croire que le surplomb physique autorisait à mépriser le monde d'en bas. L'analogie était facile entre l'air de cristal et l'esprit pur, la grande santé et la haute pensée. En réalité, le sommet ne rehausse jamais la valeur de l'être, l'homme ne se refait pas. Quand il atteint les altitudes splendides, il y transporte sa misère. L'homme a beau se propulser dans la beauté, il retombe toujours dans ses penchants, le décor n'y fait rien. Donc ça veut dire que oui, enfin, la misère, en quelque sorte, reste là, malgré l'effort de purification qui est au fondement même de votre entreprise.
Oui, c'est un grand danger de croire que le décor va vous améliorer. Vous pensez que vous allez grimper la montagne en devenant Zarathoustra et en fait vous êtes Monsieur Perrichon. Alors c'est un même bâche de viser Nietzsche et de s'écraser dans la biche. Mais en général c'est ce qui arrive. Également d'ailleurs chez les marins, quand ils arrivent sur des îles désertes magnifiques avec des plages de sable blanc et des cocotiers, très très vite leur séjour de naufragé devient aussi horrible que ce qu'il y avait dans les villes. Finalement, se déplacer, c'est simplement transporter un peu plus loin sa propre médiocrité ou sa déception. L'alpinisme a souvent été, dans les grandes époques de totalitarisme et de construction d'idéologies de hiérarchisantes de la supériorité, l'alpinisme a souvent été requis par les grands idéologues de ces autocraties pour créer une espèce de discours de la valeur suprême de celui qui arrive au sommet. Enfin, je pense au film de Leni Riefenstahl dans les années 30, Le triomphe de la volonté. Il y a comme ça toute une sorte de bouillie, de glissement qui peut être très dangereux, d'analogie qui est faite entre le podium de l'être et le sommet des montagnes. Or, l'alpiniste que je suis sait très bien que justement, l'effort physique intense dans la montagne vous ramène à votre vérité absolument première, qui est votre petite médiocrité d'homme. Et vous avez beau arriver au sommet d'une montagne de cristal sous un ciel magnifique, vous avez besoin d'aller manger votre soupe et de remettre votre cache-colle, si bien que le monsieur Perrichon revient en vous.
D'ailleurs, votre livre est fait de cette alternance constante entre l'effort de la montée, de l'alpinisme, de la traversée des Alpes et le refuge. Et dans le refuge, en effet, on se restaure, on mange, on parle, on blague. Donc, vous n'oubliez pas, de même, vous méfiez-vous des correspondances entre la vie religieuse et le métier d'alpiniste, ces métaphores physico-mystiques qui ont couru des millénaires. Rien ne ressemble plus à l'hôtel de Dieu que le sommet du montagne. Nous connaissions la chanson, monter était une prière, la neige un manteau de pureté, le compagnon de cordée un prochain idéal, et l'accord entre eux figurait le lien d'amour. Vous n'allez pas jusque-là. Cette analogie, vous ne la reprenez pas tout à fait à votre compte.
Non, non, parce qu'elle est très facile. Elle est de toute éternité, cette analogie. Elle a toujours le guide qui conduit sa cordée. Le premier de cordée, pourrait-on dire. Elle a même été reprise politiquement, il n'y a pas très longtemps, par un jeune homme président de la République.
Mais alors, justement, vous dites, Sonia Mabrouk, reconquérir le sacré. Et ce mot, je ne dirais pas qu'il est infréquentable, mais il est compliqué à fréquenter, parce que, vous y avez fait référence tout à l'heure, le sacré est très présent dans d'autres civilisations, et notamment dans une autre civilisation, elle-même de plus en plus présente en France. Vous parlez de la vigueur du sacré dans l'islam. Et là, on est amené à se dire, mon Dieu, espérons que l'islam connaîtra bientôt les bénéfices de la désacralisation. Vous citez Régis Debray, le sacré est ce qui légitime le sacrifice et ce qui interdit le sacrilège. Mais le sacrilège, ça peut être des caricatures, ça peut être l'esprit de satire, et on voit qu'il est puni avec une extrême violence par les adeptes d'un islam fondamentaliste, politique, fanatique, etc. Donc on dirait, mais mon Dieu, nous sommes en terrasse, ce n'est pas forcément une cette mixité heureuse, c'est pas sacré, mais on y tient face à cette irruption d'un sacré violent.
Je note que quand vous soulignez une question et une angoisse, vous dites mon Dieu,
à la fin oui, bien sûr.
C'est assez... Quand mais on oui, parle oui. de sacré, mais très bien. Écoutez, la reconquête du sacré qui est le titre du livre, reconquérir pour moi c'est reconsidérer. Je n'y vois pas une reconquête avec des armes et autre chose, en tous les cas des outils guerriers. Appeler à reconquérir le sacré, c'est au moins, appeler à reconsidérer une question qui me paraît stratégique, névralgique et qui n'a surtout rien d'anachronique. C'est-à-dire comment essayer d'expliquer aujourd'hui que le sacré, c'est pas une vieillerie, que le sacré, c'est pas du passé, que le sacré, ce n'est pas ce que considèrent nos sociétés modernes, technicistes, nihilistes, c'est-à-dire une vieillerie, une antiquité arrangée. Pour cela, je me suis appuyée sur, l'autre partie que je connais, l'autre culture qui est en moi, c'est l'Orient. Alors je vais venir au chemin compliqué qui est celui du sacré, et je ne nie pas, évidemment, tout ce qui est en train de se passer, mais voyez-vous, je vais juste rappeler quelque chose. Quand on appelle à reconsidérer la question du sacré, c'est répondre à une question qui me semble tellement fondamentale que, voyez-vous, ça me paraît presque simple et simpliste d'avoir à rappeler que reconsidérer le sacré, c'est comme si on tentait de répondre, en tous les cas de mettre sur la table la question que se sont posées tant d'autres bien avant nous, comme Saint-Exupéry, dans sa lettre au général X, qui pose la question suivante, que faut-il dire aux hommes ? Moi, je trouve que c'est un questionnement qui conserve toute son intensité aujourd'hui. Posons de nouveau cette question, que faut-il dire aux hommes ? Et derrière cette question, qui est en réalité une angoisse, moi j'entends autre chose. Que peut-on encore dire à ces hommes-là ? Que sont-ils encore capables d'entendre ? C'est pour ça que je parle d'aptitude à être à l'affût de quelque chose. Je crois que nous sommes, et c'est vrai que c'est particulier, même spécifique à l'Occident, inaptes aujourd'hui à être à l'affût de quelque chose. Même si on va voir que c'est un chemin difficile, mais quand même, donnons-nous la peine de reconsidérer une question qui est hautement et intensément d'actualité. Alors maintenant, pour en venir à ce que vous dites et qui est très vrai, le sacré en Orient, je citerai d'ailleurs une ville qui est le symbole finalement du choc de ces sacralités, qui est Jérusalem. Physiquement, charnellement, à Jérusalem, il y a tous ces lieux saints qui sont autant de lieux sacrés. Et puis vous voyez, à vue d'œil, vous voyez ce choc des sacralités qui est là, qui va durer encore longtemps et qui entraîne tout ce que l'on sait. Mais est-ce que pour autant, parce qu'il y a ce risque-là, il faut s'empêcher nous-mêmes de penser à une telle question. On marche véritablement sur la tête. Alors, je vais vous donner un exemple plus précis. Pourquoi, me semble-t-il, il nous faut reconsidérer cette question? Vous avez évoqué ce qui s'est passé avec Notre-Dame. Quand Notre-Dame a brûlé, quand ses flammes ont mangé notamment la flèche, moi j'ai eu un terrible regret. Pas seulement évidemment par rapport à ce qui s'est passé, évidemment on a tous été ébranlés, et bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Mais je me suis dit pourquoi les hommes d'Église n'ont pas saisi l'occasion pour quand même appeler à plus grand que soi, appeler à une route, à un boulevard plus grand que soi, appeler à quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, et tenir un discours où le sacré aurait eu sa place. Pardonnez-moi, ça aurait eu, je vais dire quelque chose d'un peu trivial, ça aurait eu même de la gueule. Et de l'autre côté, en Orient, quand il y a eu la conversion de Sainte-Sophie.
Voilà, conversion de Sainte-Sophie en mosquée.
Tout à fait. Voilà un autocrate qui s'appelle Erdogan, qui lui a tenu un discours. Je ne le salue pas, mais je me dis, il a compris certaines choses. Il ne s'est pas seulement placé en chef des musulmans, il a évoqué le sacré, il parle bien au-delà de la communauté musulmane, et il a compris, lui, combien le sacré, ou l'atrophie du sacré, va manquer aujourd'hui, demain, et manque déjà depuis un certain temps. Tout ce que je dis, c'est pourquoi on ne saisit pas certaines occasions, et c'est pas faire du prosélytisme que de le dire, mais pour rappeler quand même l'importance de ce sacré, c'est-à-dire de ce besoin finalement irréductible de l'homme. Le sacré, il existe dans toutes les cultures. Moi, j'ai pour habitude de dire, vous avez beau le chasser par la porte de votre esprit, il revient par la fenêtre de votre cœur. Bien sûr, il faut qu'il occupe l'espace privé. Nous sommes en France, dans un état laïque. C'est pour ça que j'appelle à un sacré qui n'est pas religieux. On peut imaginer une sorte de liturgie républicaine. Mais ne pas se poser la question aujourd'hui, je pense que c'est passé à côté. Et là, je finirai par une question qui est posée aussi à la fin de la lettre généralique, qui est magnifique et qui est peut-être la plus importante. C'est de ce que j'ai aimé, que restera-t-il? Et donc, peut-être qu'on peut se poser la question de ce que nous avons aimé, que restera-t-il? Et Saint-Exupéry dit, autant que des êtres, je parle des coutumes, des intonations irremplaçables et d'une certaine lumière spirituelle.
Une certaine lumière spirituelle. Alors, vous rappelez aussi que Erdogan, avant d'être président de la Turquie, a eu cette phrase, les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées sont nos casernes, les croyants nos soldats. Donc il peut y avoir une vigueur impérialiste du sacré. Mais d'un autre côté, je suis très sensible, Sonia Mabrouk, à ce que vous dites, même si je n'utilise personnellement pas le terme de sacré, parce qu'il me semble, et cela se vérifie à la lecture des livres de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, blancs, dans les forêts de Sibérie, il se trouve que notre monde moderne n'a presque plus de place pour l'indisponible. De tout, on peut passer commande. Voilà. C'est une sommation de l'être qui n'a aucune fin assignable. Tout se place dans l'horizon du commanditement. Tout peut être mis à disposition. Même, d'ailleurs, aujourd'hui, le sexe. Avec le genre, le sexe, les gender fluides. C'est-à-dire, voilà, aucune différence n'échappe à cette espèce de marché généralisé. On peut faire son miel de tout. Et donc, il me semble que, c'est pour ça que je... C'est ça, c'est-à-dire, que faire dans un monde où il n'y a plus de place pour l'indisponible, pour l'indemne et blanc, c'est quelque chose, c'est ça, c'est l'expérience de l'indemne, non ?
Oui, c'est peut-être même la définition du sacré, c'est-à-dire peut-être. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas saisir, ce qui n'est pas immédiatement requis et ce qui n'est pas convertible en une valeur d'usage. Je crois que ce qu'il sourd du livre de Sonia Mabrouk et de nos inquiétudes à tous les trois, que nous sommes tout de même très nombreux à partager, c'est ce sentiment que le sacré n'est plus une urgence chez nos contemporains. Cela vient d'un... Enfin, si on commence à chercher les sources de cette espèce de désaffection pour ce qui nous arrache à nous-mêmes, on peut en trouver au moins une dans l'immense amour que l'homme moderne a de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y penser le sacré si on est soi-même au centre du monde. Le sacré, dans les temps historiques et dans les temps anciens, était ce qui était désigné comme sacré par une communauté. Le sacré, c'était quand nous désignons. Et maintenant, le sacré, c'est quand je décrète. Est sacré ce que je décrète, alors qu'était sacré ce qui m'était désigné par un nous. Alors à ce moment-là, quand c'est soi-même qui décrète quelque chose, eh bien, c'est plus le cosmos qui est sacré, c'est son palier, éventuellement sa famille, dans le meilleur des cas, plus probablement son nombril. Et à ce moment-là, l'individualisme devient le grand remplacement du sacré par le petit moi.
Oui, et d'un autre côté, je cite ici Peggy, tout l'avénissement du monde moderne, tout l'abaissement du prix vient de ce que le monde moderne a considéré comme négociable, des valeurs que le monde antique et le monde chrétien considéraient comme non négociables. Peut-être est-ce cela le sacré. Il y a du non négociable, de l'irréductible. Et si nous n'arrivons pas à le penser ensemble, en effet, quelque chose nous manque et c'est ce vide spirituel dont parlait Saint-Exupéry.
Tout est négociable. On peut avoir la main sur tout, y compris sur la mort. C'est pour ça que je voudrais revenir en quelques mots sur les rites funéraires. Je trouve que c'est un sujet quand même... C'est-à-dire qui écrase tout. Vous avez parlé de la modernité. C'est-à-dire c'est même une obésité. C'est plus une modernité. C'est gargantuesque. Et puis vous avez ce que vous avez décrit, Sylvain Tisson, c'est-à-dire l'homme. Plus en fait, c'est le monde, la globalisation est obèse. Plus l'homme, il devient petit confetti. Il se replie sur lui-même, pensant pouvoir avoir la main, surtout y compris sur la mort. Alors, il est bercé par une autre musique que celle du sacré. Il est bercé de plus en plus par une musique qui est celle de la fable transhumaniste, qui vous dit, en somme, pardon d'être caricatural, mais on va arriver à cela. La mort n'est pas un problème. À mort, la mort. Et la mort finit par être perçue comme une sorte de panne dans la vie. Et vous savez, comme toute panne se répare, c'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique, c'est affreux comme expression, mais ça veut dire qu'on va venir vous réparer, eh bien, cet épisode, finalement, dans la vie, et qui est la mort. Mais si on pense que la mort n'est qu'un épisode, si on pense qu'on peut venir à bout de la mort, c'est l'homme nu, c'est l'homme... C'est le rhizome, c'est l'homme, il n'y a plus de finitude. Et moi, je vois dans ce détricotage des rites funéraires, c'est pour ça que je me suis permis d'insister sur cela dans mon livre, en évoquant ma petite expérience personnelle à travers le deuil. Peut-être que je vais le dire avec d'autres mots pour les auditeurs. Je suis rentrée dans un cimetière en Tunisie où se trouve ma mère. Et puis voilà, c'est un cimetière qui est à Carthage depuis très très longtemps. Et j'étais avec mon père, et puis à un moment, je tourne la tête et je vois entrer un vieil homme, un grand-père avec son petit-fils. Et puis je les vois marcher, il cherche, semble-t-il, un emplacement. Le vieil homme a peut-être oublié, peut-être ne vient-il pas assez souvent, je ne sais pas, où se trouve probablement sa femme, il cherche. Et puis à un moment, le petit garçon s'arrête net devant une sépulture. Et j'entends, et il parle en arabe, et lui dit « Mais papy, elle est là ». Mais il lui dit « Mais... » Et le petit, il devait avoir 5-6 ans, il lui dit « Mais... Comment tu sais ? » Et il lui dit cette phrase magnifique, et c'est un petit peu ça le sacré, il ne faut pas y voir beaucoup, une définition beaucoup plus lointaine. Il lui dit « Mais elle m'a parlé, je l'ai entendue, elle m'a dit « Je suis là ». Et j'ai trouvé cette phrase magnifique. Et je me suis dit « C'est ça ce qui me manque aussi, c'est cette musique-là, voilà un petit garçon qui a donc entendu, je ne sais pas, la voix ou l'âme de sa grand-mère et qui a dit à ce grand-père, qui cherchait de manière presque, j'allais dire technique, il se dit « Mais c'est là, c'est à l'angle, etc., cet emplacement ». Que le petit enfant a entendu. Cette musique-là, on n'est plus capable de l'entendre. Et je citerai encore une fois Saint-Exupéry qui dit « Je suis lourd d'une musique qui jamais plus ne sera comprise ».
Oui, alors là...
Être orphelin de ça, reconnaissons que ça fait mal.
Oui, et ce que vous dites aussi plaide non seulement pour le maintien des rites funéraires, même dans une société post-religieuse, post-chrétienne, mais peut-être aussi pour l'inhumation. Il y a un être là des morts. Ils ont une adresse avec l'incinération, en effet. Ils disparaissent. L'incinération est de plus en plus à la mode, de plus en plus pratiquée. Et donc, cette rencontre dont vous parlez, cet enfant, n'est plus possible. Et on sait, c'est peut-être aussi une expérience sacrée, que beaucoup de gens se rendent au cimetière fréquemment, mais pour parler aux défunts. Ils nettoient d'abord, ils jardinent, donc, et en plus, ils parlent. Et tout cela, en effet, n'a plus d'abri dans une religion quelconque, mais c'est sans doute cette présence des morts, cet être-là, eh bien, c'est une manière, en effet, de garder un lien avec le sacré. Sylvain Descend.
Oui, mais ce que vous dites là, tous les deux, nous ramène peut-être à votre première question sur la recette. Comment faire et que faire? Il se trouve que moi, je vois une solution dans la modestie, que nous serions bien inspirés de nous réinculquer dans tout ce qui concerne le rapport au sacré. Il se trouve que les hommes ont tâtonné pendant des milliers d'années pour faire des propositions, des grandes fables spirituelles qui peuvent nous donner, par le rite, par la liturgie, une espèce de scénographie de ces grandes questions métaphysiques. Et le malheur moderne est de faire cette table rase en proposant sa propre petite construction si pauvre, si laide, si misérable et si bancale, alors que des grands canons spirituels existent. Et je vais parler d'une expérience personnelle, mais qui nous ramène à ce que Sonia Mabrouk décrit de la mort de sa mère. « Prends garde à la douceur des choses », comme disait Paul Jean Toulet. Moi, j'ai perdu, le 1er février dernier, il y a 3 mois, mon père, qui était journaliste, qui avait
connaît
été
très bien Philippe Tesson,
Philippe Tesson, qui avait été, non pas anticlérical, mais relativement libre penseur, qui ne s'était jamais véritablement tourmenté par les questions métaphysiques, mais qui avait tenu à être enterré selon la règle catholique. Et nous avons fait des obsèques à Saint-Germain-des-Prés, qui étaient d'une beauté. Alors, avec tout le grand canon catholique, toute la pompe, les oratorios, les Ave Maria, le sermon superbe du prêtre Monsieur de Folleville. Et je dois dire que j'ai trouvé ça tellement beau que ça m'a ramené à l'idée que nous serions bien inspirés d'être modestes. Voilà une proposition liturgique et canonique qui a 2000 ans d'âge, qui vient d'une révélation inscrite dans les textes. Et qu'aurions-nous fait d'autre? Nous aurions fait une petite bouillie misérable avec un électrophone, quelques discours, des fleurs en plastique dans un crématorium. Nous n'aurions pas eu le secours de la beauté, de la grandeur et surtout du passé. Je crois que toutes les vocations autour de laquelle nous tournons depuis maintenant quelques dizaines de minutes vient de cette allégeance que nous devrions faire au passé. Le sacré, c'est ce qui dure et ce qui durera, ce qui est plus vieux que nous et ce que nous serions davantage inspirés de vénérer plutôt que de balayer.
Alors, ce qui permet cette allégeance au passé, cette écoute du passé, c'est le silence. Et ça, je crois qu'il faut s'y arrêter. Vous parlez, vous, Sonia Mabrouk, du silence de la vie intérieure. Et dans ce silence, en effet, on peut parler avec les morts. Et vous dites, Sylvain Tesson, au début de Blanc, « J'eus envie de me lever et de pénétrer dans le silence. » Et la question que l'on peut se poser, c'est « Que reste-t-il du silence aujourd'hui ?» Suran, la disparition du silence doit être comptée parmi les indices annonciateurs de la fin. Ce n'est plus à cause de son impudicité ni de ses débauches qu'aujourd'hui Babylone la Grande mérite de s'écrouler, mais à cause de son tintamarre et de son tapage. Et j'ai ici un livre très peu connu, Le monde du silence de Max Picard. Max Picard était un écrivain, philosophe suisse qui est mort en 1965. Et Le monde du silence. Et alors c'est terrible parce que il dit ceci, l'opposition de la parole et du silence disparaît aujourd'hui dans la rumeur. La rumeur nivelle tout, égalise tout, c'est une machine à niveler. Il n'y a plus d'individu, chacun n'est qu'une partie de la rumeur. Et alors là, je vais scier la branche sur laquelle Sonia Mabrouk et moi nous sommes assis, parce qu'il y consacre un chapitre à la radio, pas encore la télévision, la radio. Nous sommes en 1948. La rumeur n'est plus aujourd'hui une petite partie seulement du monde. Un monde est édifié sur elle, le monde de la radio. Et la radio, c'est la rumeur perpétuelle. La rumeur perpétuelle. Et il dit, beaucoup pensent que la radio peut éduquer l'homme en vue du vrai, du beau et du bien, mais l'homme y rencontre non la parole qui lui apporte le vrai, le beau et le bien, mais seulement une rumeur de parole, d'où le vrai, le beau et le bien n'émergent que pour y redisparaître. J'ai lu ça ou j'ai relu ça, parce que vous évoquez de manière tellement forte le silence tous les deux, je me suis dit, je ne vais pas faire amende honorable, mais nous sommes, de toute façon, partie prenante de ce monde-là, de l'aplatissement généralisé, et notamment de l'aplatissement de la parole. Sonia Mabrouk.
Le silence, en tout cas, pardon de parler de mon expérience, ma petite expérience personnelle, exige quand même qu'on ait connu aussi le bruit, la frénésie. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce moment, c'est cette oscillation, c'est ce basculement. C'est-à-dire, on goûte davantage à ce silence quand on est sorti de ces moments de frénésie et nous en connaissons quand nous sommes journalistes plongés dans le bain quotidien d'une actualité souvent inflammable. Mais je pense qu'on peut connaître aussi ce silence sans avoir fréquenté, et même si c'est un regret de ma part, les chemins noirs qui sont des chemins cachés. C'est-à-dire, j'entends parfois ce reproche qui peut être fait. Comment peut-on être à la fois le nez sur le guidon, à commenter chaque petite phrase et à faire son miel sur tous les buzz de l'actualité et en même temps promouvoir ou appeler en tous les cas à une forme de rétractation et de dépouillement de soi? Eh bien moi je crois qu'un retrait du monde n'est possible, enfin en tout cas en ce qui me concerne, que s'il est momentané, pour mieux goûter justement ce silence. En fait, on retrouve cela aussi dans le livre d'Ernst Jünger, c'est le traité du rebelle. Enfin, c'est chacun, finalement, sa cabane au fond des bois. Et Ernst Jünger ne dit pas qu'il faut s'y enfermer ad vitam aeternam, qu'il faut aller goûter, finalement, à ce moment-là, pour mieux comprendre la dérive ou les dérives de la modernité-là. Donc moi, ma cabane au fond des bois a été cette cathédrale qui, voyez-vous, tout à l'heure, j'essaie d'expliquer ce cousinage mystique et affectif, mystérieux que j'ai avec ce monument. C'est comme si la puissance de ce monument pulsait dans ma chair. Alors, il est vrai que ce monument, c'est une cathédrale. Pourquoi c'est une cathédrale? Est-ce que mon sacré est forcément religieux? Je pense quand même qu'il y a une philosophie des lieux, une géographie des lieux qui dit beaucoup de choses de nos racines, puisque vous avez parlé du passé. Peut-être je vais évoquer une expression taboue et je m'en excuse. Je suis toujours assez étonnée, après 20 ans de vie en France, que certains soient choqués ou esquissent un mouvement de recul quand on parle par exemple du passé ou des racines chrétiennes de la France. Vraiment, c'est une vraie interrogation et un questionnement. Alors, je ne suis pas naïve, je vois les dérives du débat politique, public, assez étroit. Mais je me dis comment certains penseurs ou intellectuels, si on peut les appeler ainsi, pensent que cette question est piégée. Sylvain Tesson, mais peut-être, est-ce que vous êtes d'accord sur ces chemins noirs? Moi, j'ai mis balade à travers la littérature, mais je trouve qu'on retrouve en miroir toutes ces racines chrétiennes à travers les noms, à travers une philosophie des lieux, une géographie. Donc, c'est ça le passé. En fait, le passé est sous nos yeux, en réalité. Il suffit de ramasser cela pour le voir.
Sylvain Tesson, vous répondez à cette interpellation.
Oui, bien sûr, je suis mille fois d'accord avec vous que la table rase, l'idée que la vérité n'est pas la fille du temps, mais qu'elle est la fille de soi-même, c'est une abomination. Enfin, c'est à mon avis l'espèce de cache-sexe de sa propre faiblesse, en fait. C'est aussi un expédient pour les paresseux. C'est plus facile d'imaginer que la date du Big Bang remonte à sa propre naissance plutôt que d'essayer d'intégrer, de considérer, de comprendre, d'analyser, de synthétiser les milliers d'années qui nous ont précédés. Bien entendu, sur le vacarme, sur le silence, oui, le silence est la patrie du sacré. Et oui, la conjuration contre le silence, qui est l'occupation du territoire de l'être par ce que vous appelez le tapage, non pas nocturne, mais planétaire et permanent, c'est évidemment une mauvaise nouvelle qui est arrivée à l'humanité. Finalement, peut-être que le « taisez-vous et le kabash » de Georges Marchais était un appel au sacré. Taisez-vous, El Kabach, devrions-nous dire à toute notre existence. Je conclus en disant que je crois que dans le rapport au sacré que les Grecs, et notamment Homère dans l'Iliade, nous donnent, il y a une acceptation de la nature, du rayonnement de ce qui est devant nos yeux, qui suffit. Et le vacarme permanent, c'est qu'on considère que ça ne suffit pas. N'oublions pas que Priam, sur les remparts de Troie, quand il s'avance au moment où la bataille fait rage, il dit « tout ce qui se dévoile est beau ». Peut-être qu'il est là, le sacré. On n'a pas besoin d'arrière-monde, peut-être pas besoin de ce vacarme, de ce tapage, de ce glaçage, comme on dit en pâtisserie. Il suffirait peut-être de se contenter, de penser que Dieu est la nature. Deus sive natura.
Deus sive natura. Oui, alors, je pense aussi que ce refus de penser les racines chrétiennes tient à un usage un peu fou du devoir de mémoire. Tout ce qui relève de l'enracinement fait peur aujourd'hui, donc on fuit cela dans une espèce justement de présentéisme exacerbé ou d'adhésion simple à des valeurs. Le mot de valeur remplace en effet toute forme de sacré parce que les valeurs ne font pas peur, elles sont directement universelles. Je pense que c'est malheureusement cet usage du devoir de mémoire dont nous avons souffert aujourd'hui.
Puis-je apporter une précision ? Vous employez oui. le mot valeur. Voilà un mot qui a remplacé, grand remplacé, oserais-je dire, le mot de sacré. Dans les discours des responsables politiques, il y a un mot qui est employé matin, midi et soir, qui est celui qui est de valeur, le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Mais quand vous posez la question, mais que mettez-vous derrière ce mot que vous employez, monsieur ou madame la députée, le ministre, même le président de la République, peu importe, vous n'avez pas beaucoup de réponses. Et le problème, c'est que le mot a été tellement scandé qu'il est aujourd'hui vidé de son sens. Les valeurs, me semble-t-il, sont devenues molles, malheureusement. On le déplore, on le constate. Et qu'est-ce qui reste ? Reste ce qui est dur. Or, le sacré est dur. Vous avez cité tout à l'heure la définition de Régis Debray. Le sacré impose des interdits, des barrières, des règles. Est-ce que nous sommes encore capables, justement, de tenir compte de ces barrières ? Je pense que le slogan « Il est interdit d'interdire » a quand même fait beaucoup, beaucoup de ravages. On pense que les interdits sont générateurs de frustration. Les interdits, non. Génèrent aussi du confort, génèrent aussi ce qui peut bâtir une collectivité. Cela, nous l'avons oublié.
Alors, dans votre livre, Sylvain Tesson, vous écrivez une petite nouvelle, et vous l'avez intitulée « Égalité, égalité, égalité ». Je pense ça en référence aux valeurs, parce qu'on a l'impression que la valeur d'égalité est de toute façon en train même de manger toutes les autres. Et c'est le monde, donc, aussi de l'égalisation, de l'équivalence, et peut-être du nihilisme, ce à quoi nous avons affaire. Et peut-être ce à quoi nous devons nous opposer, en recourant ou non au terme de sacré, c'est au nihilisme.
Oui, ça fait référence à l'aplatissement dont vous parliez tout à l'heure. Égalité, 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 qui deviendra probablement un jour la trilogie de la devise républicaine. Enfin, en tout cas, nous nous acheminons doucement vers cela. C'est la logique assez normale de la sacralisation de l'individu. À partir du moment où je suis le centre de l'univers, et à partir du moment où finalement tout se vaut, et bien il est normal que nous préconisions l'égalité, l'égalité et l'égalité. C'est d'ailleurs un phénomène d'arasement presque physique que Victor Hugo, d'ailleurs si vous permettez que je lise deux phrases de 93... La date, hein, pas le département, le 93 de Victor Hugo.
Oui, le roman de Victor Hugo.
Le roman de Victor Hugo sur l'année terrible. Victor Hugo parle de cette chirurgie de la Révolution, mais dans des termes qui sont absolument effroyables. La Révolution a un ennemi, le vieux monde, et elle sera sans pitié pour lui. De même que le chirurgien a un ennemi, la gangrène. Un chirurgien ressemble à un boucher. La Révolution n'écoute pas, elle tient le passé, elle l'achèvera. Alors si vous trouvez qu'il n'y a pas là-dedans un caractère d'écarissage, d'aplatissement, d'arrasement, qui amène à l'égalité, l'égalité, l'égalité. Gargantua s'est assis sur les tours de Notre-Dame.
On décapite, c'est-à-dire toutes les têtes qui dépassent. Et d'un autre côté, le roman de Victor Hugo est un roman, comment dire, assez ambivalent. Il ne répudie pas complètement l'épisode révolutionnaire.
Non, mais
il va jusqu'au bout de la logique de la terreur.
Mais il ne conspue pas non plus la chouannerie.
Enfin, non,
c'est,
bien sûr.
C'est Victor Hugo.
C'est la grandeur de ce livre.
L'écartèlement.
C'est l'écartèlement. C'est la grandeur de ce livre. En effet, absolument extraordinaire. Et pour finir, Sylvain Tesson, je citerai après vous une phrase de Gide. Un chemin droit ne mène jamais qu'au but. Où menait notre ligne? Allons-nous vraiment vers un but? Non, nous allions dans le blanc. Voilà, une certaine expérience du sacré. En tout cas, merci beaucoup Sonia Mabrouk.
Merci à vous.
Merci Sylvain Tesson. Donc je rappelle les titres de vos livres. Sonia Mabrouk, Reconquérir le sacré. Ce livre est publié aux éditions de l'Observatoire. Et Blanc de Sylvain Tesson paraît chez Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard et Juliette Mouélic, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Yvan Turc. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La vie avec un chien ». Mes invités sont Claudine Udinger et Cédric Sapin-Defour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.